Les entretiens d'Accent 4.
Bonjour Benjamin Garcia.
Bonjour Olivier.
Vous êtes écrivain, corniste, compositeur et chef d'orchestre, un musicien passionné par la musique de Gustav Mahler. Et pour vous accomplir pleinement dans cette passion, vous venez de fonder la Mahlerian Camerata. C'est un orchestre de plus ou est-ce un orchestre qui a une spécificité ?
Alors non, là, c'est un orchestre qui a une spécificité, évidemment. Je crois qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus simplement créer un orchestre parce qu'on a envie de jouer une certaine musique ou avec un certain nombre de personnes. La création de la Mahlerian Camerata est avant tout une création collective de divers artistes qui répond en fait à un constat qui est celui de s'apercevoir qu'il est temps d'essayer de créer un orchestre qui ancre la musique savante dans le paysage sociétal du XXIe siècle. J'entends par là, non pas que les orchestres institutionnels ne le fassent pas, cette démarche d'aller vers de nouveaux publics, d'aller vers une certaine forme de nouveaux concepts de l'écoute, mais ils sont peut-être pas forcément en mesure de répondre à un épanouissement total de cette démarche qui consisterait à vraiment s'identifier à un nouveau concept de concert, de vraiment s'identifier à aller chercher des nouveaux publics en montrant en fait que la musique savante, je dis bien savante et pas classique puisque c'est un terme qui me déplaît un tout petit peu, que la musique savante est l'héritage de tout à chacun, même des gens qui s'ignorent en fait être héritiers de cette tradition et de cette forme d'expression. Et pour ça, un orchestre qui est en mesure de prendre des risques à ce niveau-là, à savoir de se présenter sous des aspects qui sont peut-être hors traditionnels, hors conventionnels, dans des structures qui le sont elles tout autant, et dans des concepts de concert qui le sont eux aussi. C'est en cela, en fait, que la création de l'orchestre m'importe beaucoup. Et c'est pour ça que nous avons évidemment pris comme figure de proue un musicien aussi passionné et électrisant que Gustav Mahler, qui lui avait effectivement une vision de l'art, de la musique notamment, extrêmement panthéiste, extrêmement partageuse, j'allais dire.
Et cet orchestre, c'est un orchestre d'amis ?
Oui, avant tout. En fait, quand j'ai voulu monter l'orchestre, j'avais évidemment un certain nombre de personnes à qui j'avais envie de demander en priorité parce que c'était d'extrêmement brillants musiciens et aussi parce que je savais que les personnalités allaient correspondre et s'assembler correctement. Et la surprise qui a été la mienne, c'est que j'ai dû faire une prospection d'un an, un an et demi à peu près, et je pensais avoir une trentaine de réponses pour former le noyau, et au final aujourd'hui on est 51, juste le noyau principal.
Mais pour le programme que vous allez donner le 7 juillet, il vous faudra à l'évidence des supplémentaires.
Oui, alors à l'évidence, effectivement, puisque nous allons donner donc le 4 juillet pour l'ouverture du Hof des Corégies d'Orange, un programme assez ambitieux avec trois leaders de Mahler, une création de Philippe Scheller et la 7e symphonie. Il va sans dire que quand on est un orchestre d'une cinquantaine de musiciens, si on s'attaque à un répertoire aussi polymorphe et aussi immense orchestralement que la 7e symphonie, il y a deux options. Soit effectivement on fait appel à une batterie de supplémentaires et on triple le volume de l'orchestre, soit on transcrit, ce qui a été notre option, puisque comme je le disais en préambule, la vocation de l'orchestre n'est pas de dire à l'extérieur des salles de concert « Regardez comme c'est bien ce qu'on fait et venez nous voir nous plutôt qu'un autre », mais au contraire de dire « Regardez, ça c'est la 7e de Mahler ». Maintenant, elle doit certainement passer près de chez vous, ou pas près de chez vous, mais très bientôt, dans une salle de concert, dans des conditions telles que Mahler les a plus ou moins imaginées. Courez voir à quoi ça ressemble en vrai.
Qui a transcrit ?
Moi-même.
Donc, quasiment l'effectif de moitié, alors ?
Oui, absolument. Alors, la petite subtilité de la Mahlerian Camerata, c'est que, justement, en cherchant un nouveau concept, je cherchais une nouvelle nomenclature. Puisqu'il y a énormément de très belles transcriptions qui existent, notamment de la première, de la quatrième, de la neuvième symphonie, notamment de Klaus Simon, où finalement les cordes, dans la plupart des cas, sont quasiment un par partie en fait. Et même si les couleurs sont très belles, j'avais du mal à me dire « tiens, on va remplacer beaucoup de masse orchestrale par le piano » ou quoi. Donc c'est une option que j'ai écartée assez rapidement. Et pour avoir une masse suffisante, j'ai décomposé la section de cordes en 12. Et donc c'est 12 solistes en fait, c'est 12 parties différentes, il y a 5 violons, 3 alti, 3 celli, une contrebasse, et c'est vraiment voilà, 12 parties indépendantes les unes des autres, 12 solistes cordes, un bois de chaque, un cuivre de chaque avec deux cordes néanmoins, deux percussions, une harpe, voilà pour l'effectif.
Mais je serais curieux d'entendre ça.
Bah moi aussi.
vous avez déjà eu des répétitions ou pas?
Pas encore, on commence tout début juillet.
D'accord. Alors, la septième, c'est, à évidence, ce n'est pas la plus simple des neuf symphonies de Mahler. Comment parvenir à donner une unité à une symphonie dont les cinq mouvements sont disparates?
Alors, je pense que même si organologiquement, effectivement, les cinq mouvements ont des caractères très différents, je pense qu'il y a une sorte de flamme un petit peu noire qui anime Mahler au moment où il écrit la 7e symphonie. D'ailleurs, elle est souvent sous-titrée Le chant de la nuit. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on l'a inscrite dans le cadre de ce concert qui s'appelle Éclairer l'obscurité, où toutes les pièces, que ce soit les leaders, la création ou évidemment la symphonie, ont rapport entre ce clair-obscur musical et poétique, puisqu'il y aura aussi d'autres choses pendant la prestation, genre des lectures de poèmes. La 7e symphonie, pour moi, elle a vraiment une sorte de dominante qui est effectivement une peur panique un petit peu ancrée en Mahler du noir, en fait. C'est peut-être hérité de son enfance, très certainement d'ailleurs, comme chez tout le monde en général quand on a cette phobie de l'obscurité. Néanmoins, elle forme quand même un arc narratif extrêmement dense, et donc dans lequel on peut se perdre, mais qui est très très complet et très rationnel, du point A à l'arrivée. Avec cette arrivée purement incroyable, où il semblerait que tout soit résolu, mais c'est presque trop simple pour en arriver à cette conclusion-là. On sait notamment que Mahler a peiné énormément pour se mettre au travail de cette 7e symphonie. Si ma mémoire est bonne, il a commencé à œuvrer sur les deux mouvements adjacents au scherzo, à savoir les deux Nachtmusik. Donc, une musique qui ressemblerait justement à l'un des leaders qu'on va interpréter, à savoir Revelg, qui est une sorte de mélodie un petit peu militaire, mais militaire de nuit, avec cette espèce de côté un petit peu presque fantasmagorique. Et l'autre Nachtmusik, qui n'a rien à voir effectivement, qui est une sérénade, où il a d'ailleurs fait appel à la guitare et à la mandoline pour rendre cet aspect encore plus romantique. On pense évidemment à Don Giovanni quand on fait une allusion telle que celle-ci. Et quand l'inspiration lui est venue, par contre, ça a été une force énorme qui l'a traversée. Il a écrit très, très rapidement l'immense premier mouvement, qui est quand même un monde à lui à part entière. Et ensuite, la fin de la symphonie s'est faite de manière assez naturelle en réponse à voilà. Donc on voit que même dans le processus de création, effectivement, il y a eu deux périodes totalement différentes. Et malgré tout, il nous livre une symphonie qui est d'une seule et même voix, quoi.
On entendra d'ailleurs la mandoline et la guitare, vous les conservez?
Alors non, pour des soucis de cohérence avec notre projet. Alors ça a été un choix assez cornélien, hein, pour être tout à fait honnête. L'option que j'ai prise, c'est de répartir les différentes voix de mandoline et de guitare et les accords superposés dans l'ensemble des cordes, évidemment, mais qui joueront avec un médiateur à ce moment-là, pour recréer la sonorité au plus proche de ce que peuvent donner ces deux instruments. On aurait pu, objectivement, rajouter deux musiciens, mais ça allait un tout petit peu à l'encontre de notre idée de justement, voilà, on est tel qu'on est et on essaye, voilà, au maximum de vous livrer ce qu'on peut, tout, avec tous les moyens dont on a à disposition, qui est une phrase d'ailleurs de Mahler lui-même, qui disait, voilà, chaque fois qu'on écrit une symphonie, on crée un monde avec tous les moyens dont on dispose.
La pièce de Philippe Scheller, qui est sans doute, pour moi en tout cas, l'un des meilleurs compositeurs français.
Absolument.
Est-ce qu'il a conservé l'esprit des leaders de Mahler pour son Freiheit?
Alors je dirais, Philippe a évidemment eu en tête de livrer quelque chose de très puissant, de puissamment raccroché à l'héritage mahlérien. Je dirais qu'il s'est plutôt inspiré de la fin de la vie de Mahler. C'est un grand adagio, ce Freiheit, qui ressemblerait plutôt à une des grandes pages des dernières symphonies, 9e symphonie, 10e symphonie, qui est une ode à la liberté, évidemment. Je pense pas qu'on puisse dire soit une musique si inspirée du lead, mais vraiment plutôt, voilà, de cette source orchestrale où on va à la racine de l'émotion.
C'est une pièce orchestrale ou une pièce qui associe également la voix?
Non, en l'occurrence, c'est orchestrale pure.
D'accord. Ouais. Alors, pour les leaders, c'est votre épouse qui va chanter?
Alors, entre autres, oui, donc Vanina Santoni, qui à la fois, j'ai le privilège d'être son mari et de collaborer avec elle sur ce projet, puisque c'est elle la directrice artistique du cercle de chanteurs, puisque la Mahlerian Camerata, je vous ai parlé pour l'instant que de l'orchestre, mais l'orchestre ne serait rien sans notre cercle de chanteurs, qui est donc une troupe de 12 artistes lyriques, solistes. Donc, en l'occurrence, pour ce concert-là, Vanina Santoni, qui va chanter Ich bin der Welt abandon gekommen, qui est pour moi l'une des plus belles mélodies qui a été écrite.
Der
Rückertlieder, exactement. Mahler disait lui-même d'ailleurs que c'était. Il avait mis dedans tout ce qu'il était. Voilà, et quand on entend cette musique-là, on se dit effectivement que ça devait être une belle personne, si c'est toutefois il a raison de dire ça. Nous aurons aussi Ambroisine Bray, mezzo-soprano, qui chantera Urlicht pour commencer le concert. Quoi de mieux que Lumière originelle pour commencer un concert qui parle de lumière et d'ombre. Et enfin Sébastien Guèze, qui chantera Revelge justement, donc la seule voix d'homme du concert, mais qui prend le morceau de bravoure, entre guillemets.
Et Vanina Santoni vient de participer à la résurrection de la nonne sanglante, je crois,
absolument,
de Gounod.
Absolument, tout à fait. Spectacle absolument, absolument prodigieux, que je ne m'attendais pas du tout à... Non pas à apprécier autant, parce que je m'attendais à apprécier vu ce qu'elle m'avait dit, puis j'avais eu l'occasion de regarder la partition. Mais quel spectacle! Quel spectacle! Quelle mise en scène de David Bobet! C'est absolument... Pour moi, c'est typique voilà, des productions qu'il faut entreprendre aujourd'hui, c'est-à-dire... Avoir une vision très, très moderne de l'opéra, de la mise en scène notamment. Non pas moderne dans le sens nouveau pour nouveau, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais simplement ancrer le visuel, par exemple, de la mise en scène dans notre inconscient collectif qui est forcément, lui, acclimaté à un certain visuel par le cinéma, par le théâtre d'aujourd'hui, par Internet, par tout un tas de choses. Je crois qu'on a aujourd'hui des questions à se poser, nous musiciens et nous artistes en général. C'est ce rapport notamment à Internet qui bouleverse un petit peu la postérité dans le sens où bah, il suffit d'avoir un smartphone braqué sur soi pendant 20 secondes et faire quelque chose de particulier, alors en bien, en mal ou quoi que ce soit, pour non pas atteindre une sorte de postérité tout de suite, mais en tout cas une sorte de notoriété très brève mais très intense comme ça, ce qu'on appelle faire le buzz. Et je crois effectivement que pendant des décennies, la forme ultime d'expression d'un artiste, la consécration ultime, c'était l'enregistrement. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est toujours vrai? Je pense. Je pense qu'il faut aussi effectivement compter avec un certain nombre de médias, de vecteurs, qui doivent non pas parasiter le discours et nous faire nous éparpiller, mais au contraire, permettre de diffuser au plus large notre propos, en fait, notre art. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a trop d'ensemble, par exemple, et que les uns nuisent aux autres, les uns se désamorcent les uns les autres. Je pense que quand on a une vraie idée, un vrai projet, il faut la défendre, parce que si elle est vraie, si elle est authentique, elle ne peut être que complémentaire par rapport à une autre idée et de quelqu'un d'autre, et que voilà, pour parler un petit peu plus vulgairement et parler un petit peu de manière économique, je pense que l'offre, quand elle est de qualité, crée la demande.
On est d'accord. On rappelle la date du concert?
Bien sûr, c'est le 4 juillet, donc à la Cour Saint-Louis d'Orange, pendant le cadre des Corégies d'Orange.
C'est le festival OFF.
Absolument.
Merci Benjamin.
Merci à vous Olivier. Thank you. Thank you.